Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h, midi 30.
Que nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes le 26 octobre. Il en est un à côté de moi qui a une jolie nouvelle à nous apprendre à tous, à la France entière, à l'univers et au-delà. Pierre,
et un,
bonjour.
Et, deux,
et trois.
Et trois enfants.
Et voilà, le petit Clément est né.
Il est venu, le voilà, c'est une belle nouvelle, effectivement, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce qu'il a eu la bonne idée de naître un petit peu avant, là, avant-hier.
Jeudi.
Il s'est dit comme ça, papa, il va pouvoir faire sa roule, il va pouvoir être avec vous tous. Et ben voilà, comme ça, je suis à vos côtés, je suis ravi.
Et puis, vous pouvez mettre tous vos messages hein, pour Alizé, la maman, Clément, le bébé et Pierre, le papa, sur le Facebook Live de Sud Radio, puisque nous sommes, vous le savez, comme tous les samedis, en Facebook Live avec vous. Numéro de téléphone de Sud Radio aussi, pour réagir à tous les sujets que l'on vous propose ce matin avant midi et demi, 0826 300 300. Les sujets, ils vont être nombreux et vous l'avez entendu sur le journal de notre amie Charlotte Delarchand. Elle parlait entre autres des intempéries dans le sud-est, hein, du côté de Béziers entre autres et dans l'Hérault en général, et le prix des cars qui ont augmenté, etc. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais surtout, on va revenir sur les assurances en cas de catastrophe naturelle.
Oui, c'est vrai que ça, c'est assez fréquent et puis ça a toujours existé. Alors, on essaie de nous faire croire que c'est de plus en plus et qu'il y en aura tout le temps, tous les trois jours. Non, bon, le problème, c'est que quand ça vous arrive, il y a à la fois les bons gestes à avoir quand vous êtes victime d'une intempérie, lorsque vous êtes pris dans un flux, c'est le cas de le dire, dans un flux. On a vu une vidéo avec un petit chat qui a tourné comme ça.
Incroyable,
sur Internet.
On l'a regardé encore ce matin avec notre invité.
Voilà, alors, et puis le chat, ça pouvait être un enfant, un automobiliste ou n'importe quoi. Donc, il y a des bons gestes à adopter. Et puis, il y a des bons comportements à avoir vis-à-vis de son assureur derrière. On en parlera avec vous dans quelques instants.
Et Bertrand Libert, président d'Assure People, est à nos côtés pour décrire tout ce qu'il faut savoir faire et vivre en termes d'assurance au cas où. Et puis, nous aurons également quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu.
Notre Américain,
Laurent Collas, qui a créé Rescue Me.
Et voilà, ce petit objet que vous placez dans la voiture qui a remporté le prix du ministère de l'Intérieur au concours L'Épine. Ce petit objet, il est grand... Comme ça, ça vous donne une belle indication. Hein. Donc, je vais dire 7-8 cm. Et en fait, il vous permet de briser le véhicule et de pouvoir couper la ceinture de sécurité, notamment lorsqu'elle reste bloquée. Ça vous permet de vous extraire du véhicule.
S'il briser y a... la vitre, hein, on le précise.
Briser la vitre. Ouais.
Si j'ai brisé le véhicule.
J'ai dit ça. Ah, oui. Ça, c'est son côté.
Brisé le véhicule.
Ouais. Il n'a pas assez dormi, c'est un jeune papa. Donc...
Non, je voyais la tête de Gaspard qui me regardait avec un gros sourire. Je me disais, qu'est-ce que
alors,
j'ai dit ?
Sauf si c'est une voiture majorette.
Oui, mais c'est ça. Et puis on apprendra un petit peu tous les bons réflexes à avoir justement lorsqu'on est pris dans ce genre de situation. Mmh. On est ravis de retrouver Laurent Collas qui a un petit produit qui cartonne aux États-Unis et en France, on a du mal.
On en parlera avec lui, exactement. Allez, autre bonne nouvelle, et ça c'est grâce à notre ami Gaspard. Sachez que si vous avez une voiture de collection, eh bien on va vous donner peut-être l'occasion de l'avoir en voiture électrique. Oui, votre vieille DS en voiture électrique par exemple, ou votre 2 chevaux, puisqu'on fête les 100 ans de Citroën.
C'est tendance à électrifier sa voiture. Vous pouvez aussi y penser, par exemple, si vous avez une voiture qui commence à être un petit peu en panne, vous allez voir qu'en termes d'investissement, ça peut être plutôt sympathique d'aller là-dessus. Ça permet de sauver une voiture. Ça peut être quelque chose de plutôt sympa.
Allez, autre sujet également. Nous allons parler d'histoire de voiture puisque nous allons recevoir un historien de la bagnole.
Oh, alors ça va être
parce qu'il y a plein d'anniversaires en 2019. Ouais. Bugatti, Citroën, Opel, ouais. Et j'en passe.
Et c'est parti de là, en fait. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous savez que tous les matins, 6h17, vous me retrouvez à l'antenne. Et puis, il y a un jour où j'ai vu ça, l'anniversaire, les 110 ans de Bugatti. Et quand on voit le nom du fondateur, Ettore Bugatti, tu te dis, il est italien, incontestablement, il est italien. Et Bugatti est une marque française. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire venir François Roudier. Et on a appelé François Roudier, le directeur de la communication du comité des constructeurs français de l'automobile, qui va nous faire un petit peu l'histoire. Histoire de Bugatti, entre autres.
Allez, on en profite évidemment aussi pour vous accompagner, ça c'est évident, sur Sud Radio, pour vous proposer de pouvoir réagir à nos sujets au 0826 300 300, vous le savez directement, sur la page Facebook de Sud Radio, puisque nous sommes en Facebook Live. Vous vous retrouvez d'ailleurs le très joli visage de notre ami Gaspard.
Les trottinettes enfin encadrées par la loi, un décret publié au journal officiel encadre désormais strictement l'usage des engins de déplacement personnel motorisés. Les usagers de trottinettes vont devoir respecter des règles bien établies. La première est que la circulation en trottinette sur les trottoirs est désormais totalement interdite. Elles doivent être sur les pistes cyclables lorsqu'elles sont présentes, sinon sur la route, mais uniquement sur les parties limitées à 50 ou moins. Le port du casque audio ou le fait de monter à plusieurs sur les trottinettes Vous pouvez également oublier quant aux gilets réfléchissants, ils sont uniquement obligatoires en dehors des agglomérations. L'utilisation de trottinettes électriques débridées est formellement interdite. Les engins ne doivent pas pouvoir dépasser les 25 km/h, sans quoi l'usager risque une amende allant de 1500 à 3000 euros s'il y a une récidive. En cas de circulation sur les trottoirs, l'amende sera de 135 euros. Pierre, j'ai envie de dire enfin.
Oui, enfin une réglementation sur les trottinettes. Et en même temps, moi j'ai fait un truc très sympa ce matin. Vous savez qu'il y en a qui parlent très bien français. Moi je parle très bien le pragmatique. D'ailleurs, je suis sorti, j'ai regardé ce qui se passait autour. Alors j'ai vu toutes les trottinettes au même endroit que d'habitude, toujours sur les trottoirs, toujours lancées comme ça, à la va-vite, et toujours en méconnaissance totale de la nouvelle réglementation. Donc il y a un gros boulot de communication à faire, parce que sinon ça restera juste un texte parmi d'autres qui ne sera pas suivi des faits.
Bon, en même temps, avec les amendes, si on vous met une amende, après...
Si on les met.
Voilà. Oui, si on les met, puis il y a un truc qui est énorme. Quoi, le casque n'est pas obligatoire. C'est un truc de malade.
Comme pour le vélo, hein.
Non mais il y a un moment, on les voit sur les routes, hein. Ils sont sur la route. Vous, votre scooter, vous avez un casque obligatoire.
Toujours le même truc.
La proposition d'une limitation de vitesse sur les autoroutes en Allemagne à nouveau rejetée. Si la France est reine dans la répression, elle l'est moins en ce qui concerne son combat contre la mortalité routière, contrairement à nos voisins allemands qui n'ont rien à nous envier. C'était un des chevaux de bataille du groupe écologiste allemand qui voulait une réduction du CO2 par la limitation des portions d'autoroute aujourd'hui illimitées. Le vote a été remis sur la table, mais cette fois avec d'autres arguments. En plus de la réduction du CO2, instaurer une limitation à 130 km/h sur toutes les autoroutes permettrait aussi de réduire les risques de gros accidents, mais aussi de fluidifier le trafic. Deux arguments finalement très français, nouvelle tentative et nouveau refus du Bundestag, le Parlement allemand qui a voté en grande majorité contre cette mesure. Pierre, on ferait bien de s'inspirer de nos amis allemands, non ?
S'inspirer des amis allemands, s'inspirer surtout de ceux...
Pour l'automobile.
Non, mais pour l'automobile, mais pas que. S'inspirer des voisins étrangers en ce qui concerne la sécurité routière. On a différents pays. Moi, je prends l'Angleterre, je prends les numéro 1 européen de la sécurité routière, l'Angleterre. Et on a un système en Angleterre. Tiens, par exemple, j'en prends qu'une, parce que c'est la une. Sur les petits excès de vitesse, l'involontaire, vous savez, celui où vous avez dépassé, parce que vous êtes en bas de la descente de 2-3 km/h. Eh bien, en Angleterre, ça passe dans la tolérance. En France, vous êtes verbalisé. Donc voilà, des petites différences, mais qui permettraient de réconcilier les Français avec la sécurité routière. Parce que c'est le seul combat pour sauver des vies où vous ne trouvez plus de soldats. Il n'y a plus personne pour faire cette guerre contre l'insécurité routière. Parce qu'on a l'impression que c'est juste une machine à cash. C'est ce que ressentent les gens qui nous écoutent. Ils ressentent ça. Donc il faut se comprendre, écouter et trouver des solutions pragmatiques.
C'est pas très sympa pour Emmanuel Barbe.
Je suis pour rien.
Prudence sur la route, le changement d'heure entraîne une hausse du nombre d'accidents. Le passage à l'heure d'hiver entraîne évidemment une augmentation, dont je viens de le dire, du nombre d'accidents, plus particulièrement ceux qui impliquent les piétons. Près de la moitié des piétons tués chaque année le sont sur les 4 mois d'octobre à janvier. Et preuve de l'effet du changement d'heure, le nombre d'accidents avec des piétons s'envole de 50% sur la tranche 17-19 heures où il y a beaucoup plus de monde sur les routes avec la sortie des écoles et des bureaux. Assez logiquement, le fait d'avancer sa montre d'une heure entraîne donc une augmentation du nombre de trajets de nuit, avec donc une mauvaise visibilité. Côté piéton, la sécurité routière vous conseille de porter des vêtements clairs ou avec des bandes réfléchissantes
du jaune
à mettre également sur les quatre tables des enfants. Pour les automobilistes, il faut ralentir à l'approche d'un passage piéton pour être capable de freiner à temps. On rappelle que le non-respect de la priorité peut entraîner une amende de 135 euros et la perte de 6 points sur le permis de conduire.
Voilà, et puis les piétons, les enfants et les vélos, mettez des réfléchissants parce que vraiment...
Allez, moi je vais faire un truc, je vais vous proposer aussi quelque chose qui est plutôt pas mal, ça existe aussi en Angleterre, on y retourne. Quand on a une augmentation de la mortalité des piétons en ville, on leur dit pas de porter du jaune parce qu'ils le feront pas. En revanche, on pourrait s'inspirer de ce qui se passe à Londres, sur les feux rouges, il y a des compteurs qui vous indiquent le temps qu'il vous reste pour traverser la route, traverser la chaussée, avant que le feu repasse au vert pour les voitures.
Ça existe dans certaines villes de France aussi.
Ah bon, où?
Je l'ai déjà vu, moi, mais je ne sais pas vous dire où. Mais...
Ah, mais ça, c'est quand vous êtes parti en Belgique, ça.
Non, je suis d'accord, il y en a peut-être une ou deux.
Non, mais c'est parce que quand il prend un train, il croit qu'il est toujours en France. Alors, en fait, on l'a mis dans le tunnel sous la Manche. Il est arrivé à Londres, il s'est dit, c'est bizarre, c'est français.
D'ailleurs, si
comme
vous
moi.
Nous écoutez du côté de l'Hérault et que vous êtes embêté avec le train, on pense à vous très fort, puisqu'il va y avoir les retours de vacances, il va y avoir pas mal de choses. Bref, il y a aussi un autre événement aujourd'hui. Évidemment, Sud Radio vous permet de le suivre en direct avec notre spécialiste, notre confrère rugby, Xavier Barré. C'est la demi-finale Angleterre-Nouvelle-Zélande.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Badam, pam, pam. Et vous, évidemment, vous le savez, au 0826 300 300, vous nous rejoignez pour nous donner votre avis, réagir au sujet que l'on va vous proposer. Il vous concerne d'autant plus si vous êtes sur l'Hérault, vous le savez, hein, puisque l'Hérault, mais pas simplement, il y a 8 départements hein, qui ont été touchés très fortement en ce milieu de semaine par des intempéries incroyables, dont Béziers, évidemment. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vécues par vous. On est à Sud Radio avec vous, évidemment, par la pensée. Et puis, bah, du coup, bah, on s'est dit, tiens, sur ça roule, on va parler aussi des catastrophes naturelles, des assurances avec les voitures, parce qu'il y en a plein qui ont perdu littéralement, pas que leur voiture, mais également leur voiture.
Allez, on accueille tout le monde.
Oui.
Laurent Collas, bonjour.
Bonjour Pierre.
Bonjour Laurent Collas.
Bonjour Laurence, bonjour Gaspard.
Alors Laurent, excusez-moi, vous êtes en haut-parleur peut-être sur votre téléphone.
Oui.
Alors il faut enlever le haut-parleur si vous le voulez bien, parce que ça fait écho.
Non, c'est pas haut-parleur, c'est un...
Ah, ce sera mieux comme ça quand même.
C'est mieux comme ça là.
Ah, voilà. C'est parfait ça. Laurent.
On va accueillir également Bertrand Libert qui est président d'Assure People qui est avec nous en studio. Bonjour,
bonjour
Monsieur
Laurence,
Libert.
Bonjour Pierre.
Bon, on va essayer un petit peu de vous donner les bons conseils à vous qui êtes dans le sud et qui
avez
peut-être
autres,
subi ce type de nuisance et tout en se disant qu'un jour ça peut nous arriver aussi hein, quels que soient les endroits où on habite. Alors la première chose déjà, je voudrais qu'on fasse un petit point quand même sur ce qui s'est passé. Vous du côté d'Assure People, vous avez reçu tout un tas de remontées, je pense, d'informations de terrain de la part de ceux qui ont été touchés par ce type d'intempéries.
Alors on commence effectivement tout à fait dès la fin de semaine dernière, fin de cette semaine, à recevoir les déclarations des assurés qui
Ça fait beaucoup pour Assure People. Enfin, vous êtes.
Nous, on travaille France entière, donc le Sud-Est est une région dans laquelle évidemment on trouve des clients. Donc, on voit un surcroît de déclarations de la part de clients, évidemment.
Le type de déclarations qui ressortent, c'est quoi? C'est des véhicules qui sont
perdus.
Enfin, il y a toutes sortes de situations. Ça va de ce qu'on a vu de plus dramatique avec des véhicules complètement emportés par les flots, les vagues. Enfin, ça a été dantesque une fois de plus, puisqu'il faut quand même rappeler que l'année dernière, à la même époque, au mois d'octobre, tous ces départements avaient, plusieurs de ces départements avaient déjà connu...
Du côté de Carcassonne, etc., où
exactement.
Ça avait été dramatique
dans
également.
Dans l'Hérault, dans le Tarn, dans l'Aude. Ouais. Et donc, pour tous nos assurés là-bas, ça fait une deuxième année avec ce type d'intempérie.
Voilà, c'est important. Un petit mot sur Assure People, puisqu'on vous accueille. Vous êtes reconnu comme étant l'assurance qui assure tout le monde, surtout ceux qui ne trouvent plus d'assurance, on en dit deux mots.
Exactement, nous sommes courtiers, donc un courtier c'est l'acteur qui est aux côtés de l'assuré pour l'aider à trouver la bonne solution auprès des assureurs, surtout quand c'est difficile. Donc notre mission c'est d'apporter des solutions d'assurance auto qui est un élément essentiel évidemment.
Allez,
y compris quand c'est compliqué.
On part du côté de Laurent Collas. J'ai une question pour vous très simple, Laurent.
Alors, Laurent Collas, on va peut-être le présenter.
Voilà. Vous êtes le fondateur...
c'est mieux quand même.
On l'a fait en début d'émission. Vous êtes le fondateur de Rescue Me. C'est une petite solution simple, un petit objet qui fait une dizaine de centimètres et qui vous permet de briser la vitre de l'intérieur de votre voiture lorsque vous êtes emprisonné dedans, dans des conditions, par exemple, d'eau. Parce qu'il faut le savoir, Laurent, à partir de très peu d'eau, notre véhicule perd totalement son adhérence au sol. Il faut combien de centimètres d'eau pour que le véhicule devienne totalement incontrôlable?
C'est ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que 30 cm d'eau aujourd'hui permet à un véhicule de prendre son indépendance, donc on perd tout à fait le contrôle de son véhicule et après on est amené on est à la portée du courant et on peut arriver à des eaux profondes qui est d'où le risque de noyade.
Alors, vous avez ce petit objet, le Rescue Me, qui est vendu à peu près partout dans le monde et qui est vendu
Rescue
aussi en France.
R-E-S-Q-M-E.
C'est ça. Et ce petit objet permet de briser la vitre de l'habitacle. Vous recevez, je les ai vus moi-même, tout un tas d'emails de gens qui vous disent « Merci, votre petit objet nous a sauvé la vie parce que la vitre était totalement bloquée, je n'arrivais pas à l'ouvrir ». C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on peut se dire « Oui, mais enfin, on peut ouvrir une portière quand même ». Qu'est-ce qui peut empêcher de s'extraire d'un véhicule?
Le souci dans la situation où une voiture se trouve dans un cours d'eau, une zone inondée, la pression d'eau empêche d'ouvrir la portière.
Mm-hmm.
Et dans ce cas-là, il faut attendre que la pression s'enlève, mais donc on n'a pas le temps, donc il faut ouvrir vite la fenêtre. Et le problème d'ouvrir la fenêtre, s'il y a un court-circuit, la fenêtre peut avoir un souci d'ouverture, d'où la nécessité d'avoir un outil pointu pour poser une vitre.
Alors, on le trouve où sur Internet, dans les stations essence?
Non, aujourd'hui, on le trouve sur Internet, bien sûr, et dans les enseignes comme Noroteau, Feu Vert.
D'accord, voilà. Le prix sur Rescue Me?
c'est un produit qui se vend à 9,90.
Il ne faut pas s'en passer. Laurent, restez avec nous. On va retrouver, bien sûr, dans quelques instants, Bertrand Libert, président d'Assure People, voir un petit peu ce qui se passe en termes de déclaration aussi, hein, pour tous ceux qui ont subi les affres de ce qui s'est passé cette semaine du côté de l'Hérault. Mais on est avec Robert, qui, lui, nous appelle de Marseille au 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour, Robert.
Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à Pierre, bonjour, félicitations Robert. Pierre, et faites un gros bisou à votre dame,
ah, ça, et au bébé.
Alors on vous écoute, Robert.
Ouais, parce qu'il y a de l'eau chez vous, mais c'est normal,
et
je préfère vous le dire.
Il y a du rugby bientôt aussi.
Ben, nous, on a failli être inondé aussi, enfin. Voilà, j'ai une petite question, parce que moi je suis un professionnel du bâtiment, et vous savez que les maisons qui se fissurent sont dues au train argileux. Alors, je pose une question parce qu'il y a quand même une responsabilité du constructeur. Parce que quand on a un terrain argileux, on n'a pas les mêmes fondations qu'un terrain normal.
Alors, d'accord, juste un souci, Robert, c'est que là, c'est ça roule. Et que ça roule. Alors, si vous me parlez de ce qui est des constructeurs auto, je vais pouvoir vous répondre. Mais alors là, pour vous répondre des assurances habitation...
Bah ouais, vous voulez en venir où?
Ben, pardon?
Vous voulez en venir où, mon cher Robert de Marseille?
Ben, parce que je pense que les assurances, bien sûr, remboursent quand il y a une catastrophe, ils disent qu'il y a une catastrophe naturelle, parce que le terrain, bien sûr, quand il pleut, les argiles gonflent, et quand il y a eu la sécheresse,
oui, mais alors,
ça
du coup...
se rétracte, mais la fondation... D'un bâtiment, en principe.
Je vais la faire, moi, la transition. Robert, je vous sauve la vie.
La question, Robert?
La question, c'est que dans les immeubles, de temps en temps, il y a un parking. Et dans le parking, il peut être inondé. Voilà, et comme ça.
Parce qu'on va en profiter rapidement. On fera ça après la pub. Hein. Voilà. C'est que Robert veut poser une question, a priori, si je comprends, c'est qu'il trouve que les assurances, elles ne jouent pas le jeu quand il y a des problématiques comme ça d'inondation sur des terrains argileux.
Et on va lui répondre.
Dans quelques instants. Mais tout de suite, place à ce qui se passe. Reste avec nous, Robert, parce que vous savez qu'on vit aussi un grand événement sur l'antenne de Sud Radio avec toute l'équipe rugby de Sud Radio, et on file du côté du Japon.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret,
Laurence Perrault.
Et ensemble avec vous pour parler, entre autres évidemment, de rugby, hein, puisque jusqu'à midi et demi on en reparlera, on retrouvera Xavier Barré pour cette demi-finale Angleterre-Nouvelle-Zélande. Et puis surtout le premier sujet qu'on évoquait avec ces intempéries exceptionnelles, catastrophe naturelle, ça y est, c'est tombé, hein, pour les départements qui ont été touchés cette semaine, et on retrouve notre invité. Il s'agit de Bertrand Libert, président d'Assure People, qui est avec nous en studio.
Et on avait une question, hein, juste avant la publicité, qui touchait véritablement à l'indemnisation et au fait que les assureurs, selon certains, se posent la question: est-ce que vous jouez véritablement le jeu en cas de catastrophe naturelle? Est-ce que les assureurs assurent? Alors, on a dérivé un peu immobilier, mais c'est pareil, ça touche la voiture, que ça touche la voiture, le parking ou la maison, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les faits lorsqu'on doit indemniser quelqu'un qui est dans une zone catastrophe naturelle?
Alors, c'est un régime qui est extrêmement encadré, hein. C'est le régime catastrophe naturelle qui est issu de la loi de 82. Donc, on avait la question tout à l'heure sur les immeubles et sécheresses. Sécheresse, inondation, telles qu'on les a connues, c'est précisément l'objectif du régime catastrophe naturelle que d'indemniser.
Alors, comment ça se passe,
et d'encadrer les indemnisations. Alors, en cas d'assurance auto, la première chose à faire, c'est de vérifier les garanties que vous avez souscrites. S'il n'y a pas de garantie dommage dans le contrat, si vous n'êtes pas à minimum au tiers plus ou en tout risque, le régime catastrophe naturelle ne pourra pas intervenir pour votre véhicule. Contrairement à l'assurance habitation, pour laquelle la souscription de la garantie catastrophe naturelle est obligatoire, ce n'est pas le cas en assurance auto. Et donc, si vous êtes assuré uniquement au tiers, il n'y a aucune indemnisation qui pourra être accordée.
Donc, alors, le bon conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est si vous habitez dans des zones à risque, n'hésitez pas.
Exactement.
Parce que sinon, c'est votre voiture qui est emportée avec zéro euro derrière.
Oui, mais alors, moi, je suis désolé.
Oui, c'est pas tout à fait.
Moi, si je comprends l'assurance au tiers, quand je ne suis pas responsable de l'accident, normalement, mon assurance me couvre. Mais et là, je ne suis pas responsable de l'accident, Monsieur Libert, de Assure People.
L'assurance au tiers, c'est les dommages que vous causez au tiers.
Oui, mais c'est quand même
donc,
dégueulasse.
Là, en l'occurrence...
excusez-moi de parler vrai sur Sud Radio, mais quand...
Il faut
parler... À partir du moment où on ignore, surtout,
il faut informer, et c'est ça le point essentiel. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup auprès de nos clients.
Catastrophe naturelle, tout devrait être pris en compte. Ça devrait être pris en compte, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, donc on devrait être remboursé au moins au prix de l'argus de la voiture, quoi.
Ça peut être une évolution, effectivement, que de rendre obligatoire la souscription de la garantie catastrophe naturelle, quelle que soit la formule de garantie. Mais il faut bien savoir que, dès aujourd'hui, pour quelques euros de plus par mois, même pour un véhicule ancien qui ne justifie pas des garanties tout risque, vous pouvez bénéficier de cette garantie tempête et catastrophe
après,
naturelle.
Laurent, c'est la même chose sur le brise-glace. Hein. On est dans la même option. Si vous êtes au tiers simple et que vous n'avez pas souscrit à l'assurance brise-glace, et ben malheureusement, je crois...
Parce que Pierre, tu le sais, on en a parlé sur Sud Radio il n'y a pas si longtemps dans Ça roule. Il y a beaucoup de gens qui ne s'assurent plus, y compris pour simplement des histoires de finances. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être assurés, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'être assurés. Alors si en plus de ça, il n'y a pas des efforts de faire en termes de catastrophe naturelle, voilà, moi je trouve ça un peu...
Mais parce que ce que nous dit Bertrand...
Pas de la part des assureurs.
Ce que nous dit Bertrand Libère, c'est qu'il faut comprendre que le tiers, l'assurance qu'on appelle au tiers, c'est une assurance à minima qui permet juste de rouler parce qu'elle va couvrir les dégâts que nous causons aux autres si nous sommes les auteurs de l'infraction. Pour ce qui est d'ailleurs, quand vous êtes assuré au tiers mais quelqu'un vous rentre dedans, il n'y a pas de question à se poser, vous êtes indemnisé par l'assurance de l'autre d'ailleurs, s'il est au tiers. C'est une garantie minimale pour avoir le droit de circuler. Ouais, et puis derrière, il y a la souscription des options. Et les options, c'est vrai, quand on les prend toutes, on fait monter l'addition aussi. Hein.
Excusez-moi d'avoir ma petite casquette d'auréole, mais je l'assume totalement. Humainement, vous vivez ce que tous ceux qui écoutent Sud Radio et puis les autres, là, ont vécu cette semaine du côté des 8 départements, entre autres du côté de l'Hérault et pas seulement. Vous perdez votre maison, vous avez tout perdu. Bon, certains, on a eu des témoignages où il y avait des poules, les lapins, tout est mort. La voiture est morte, vous n'avez plus rien. Et même votre bagnole ne va pas être remboursée si vous n'êtes pas...
Oui, avec toutes les difficultés derrière, l'accès au travail...
Ah ouais, c'est dur,
c'est effectivement terrible, Laurence, d'autant plus que l'âge moyen du parc français il vieillit, donc on est de plus en plus sur des véhicules qui sont anciens. Donc
on est à 10 ans hein, de 10 moyenne.
10 ans, voire un petit peu plus. Ouais. Donc le réflexe, c'est d'abandonner les garanties dommages, mais quand on habite dans des régions qui sont soumises à ce type d'intempéries de façon régulière... Le bon calcul, c'est de dépenser les quelques euros de plus qui permettent d'obtenir
ces gains.
On est, ça va être peanuts, hein, ramener au moins
50 euros sur une année
3, 4, 5 euros par mois pour bénéficier d'une garantie tiers plus.
Et derrière, je vais comparer ça à ceux qui nous écoutent, qui habitent par exemple dans les Hautes-Pyrénées. Lorsque vous habitez en montagne et si vous voulez économiser sur vos pneumatiques et que vous roulez en pneu été toute l'année, au bout d'un moment, ça pose un problème. C'est-à-dire que pour descendre en ville chercher sa baguette de pain, quand vous êtes en haut du col de Persourde, si vous voulez descendre à Loudenviel et que vous êtes avec vos pneus lisses, ça va être quand même quelque chose de compliqué, à moins de s'appeler Bernard Darniche. Mais donc, vous investissez dans des pneumatiques que vous ne prenez pas quand vous habitez le cœur de Paris ou le cœur de Marseille. Eh bien là, c'est à peu près la même chose. Quand on vit dans une zone à risque, c'est malheureux. Bien sûr que je trouve que les assurances devraient être plus basses. Mais il faut savoir que l'assurance auto, et ça, je voudrais que vous en parliez, Bertrand Libère, c'est un des produits les plus taxés en France.
Exactement.
Alors, explication.
On est les premiers collecteurs, enfin, un collecteur très significatif d'impôts, puisqu'une garantie, comme la garantie responsabilité civile, telle qu'on décrivait tout à l'heure, c'est taxé à 36%. Plus d'un tiers de la prime qui est collectée par les assureurs.
C'est l'État.
Revient à l'État. Alors, attention, parce que sur ces taxes, il y a des choses qui financent des sujets importants pour la communauté. Le fonds de garantie des accidents, il est financé par ces taxes. Mais il n'en reste pas moins que c'est effectivement un produit très taxé. Et il faut quand même reconnaître, Pierre, vous nous rappeliez tout à l'heure tout ce qui se fait de bien dans les pays européens, en Angleterre, en Allemagne. Les primes moyennes d'assurance auto en France sont parmi les plus basses en moyenne.
C'est la difficulté. Moi, ce qui me gêne, c'est la difficulté du jeune conducteur. Je vais vous dire franchement, quand je vois le prix pour un jeune conducteur, je me dis, soit il se met sur le compte de papa-maman, et là, il s'en sort à peu près, soit il n'a pas de chance parce qu'il ne s'entend pas forcément très bien avec ses parents, ou il souhaite prendre son indépendance, ou ses parents n'acceptent pas. Et dans ces cas-là, c'est le coup de bambou. Donc, il y a une certaine injustice entre celui qui peut bénéficier, comme je l'ai fait, d'être sur l'assurance de mon papa, et puis ceux qui ne peuvent pas faire ça, et pour qui ça va se jouer à 1500, 2000 euros l'année.
Question. Monsieur de Assure People, monsieur qui est le président Bertrand Libère. Je suis un conducteur ou une conductrice qui vient de vivre ce qui s'est passé du côté de l'Hérault cette semaine, entre autres. J'étais déjà un petit peu blacklistée, en limite, chez les assureurs. Ouais. Il m'arrive ça. Vous me l'expliquez que si je ne suis pas plein pot sur mon assurance, donc je ne vais rien toucher, puisque au tiers, je ne vais rien toucher. Est-ce que ça va ajouter au fait que je sois vraiment blacklistée? Alors, chez Assure People, a priori non, mais en règle générale, est-ce que ce type de catastrophe naturelle me met sur la liste des blacklistés si j'ai eu plein de problèmes?
Alors, quand on regarde quand même le...
Je n'ai pas été clair, mais j'espère que vous avez compris.
Si, c'est très clair.
C'était limpide.
Super, merci.
J'ai rien compris.
C'est ça, j'ai un peu ramé, là.
Non, c'est parfait.
Quand on regarde quand même les statistiques, plus environ 70% des véhicules sont assurés en France avec des garanties dommages. Donc, il y a quand même la très grande majorité des personnes qui vont être indemnisées par leur assureur dans le cadre du régime, dans le cadre du régime catastrophe naturelle, et les dommages vont être pris en charge. Ensuite, si vous n'avez pas été indemnisé parce que vous n'aviez pas les garanties, quand vous allez souhaiter resouscrire un contrat, vous allez devoir déclarer ce sinistre, même s'il n'a pas été indemnisé. Il y a des solutions aujourd'hui, quelle que soit la situation de sinistre, pour trouver un produit au meilleur tarif. Et c'est notre mission chez AssurePeople.com.
Alors, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu
avec Laurent Collas.
Avec Laurent Collas. Laurent, je voudrais vous poser une question simple. Quels sont les bons gestes, la bonne attitude à adopter lorsqu'on se retrouve piégé dans sa voiture, dans les inondations, dans des intempéries, en plein milieu d'une catastrophe naturelle qui nous tombe dessus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les bons gestes?
Bon, d'abord, avant d'en arriver là, je dirais, si on se retrouve face à face avec une zone inondée, il faudrait faire un demi-tour pour pouvoir arriver à ce genre de situation. Mais bon, dans un premier temps, il faut regarder son environnement pour voir un peu comment le courant circule par rapport à son véhicule, pour pouvoir sortir de la voiture en ouvrant la fenêtre. Parce que bon, la plupart il reste quand même beaucoup de temps pour pouvoir ouvrir une fenêtre avant qu'il y ait un court-circuit. Donc, le fait de briser la vitre avec mon petit outil, c'est vrai que c'est utile de l'avoir, mais si les gens ont le bon instinct, ils peuvent ouvrir la fenêtre sans la briser.
Et on n'ouvre pas toutes les fenêtres, évidemment, sinon l'eau s'engouffre à l'intérieur. On en ouvre une et on essaie de s'extraire, c'est ça?
Tout à fait, ouais.
Merci.
Et il faut ouvrir dans le sens du courant.
D'accord. Oui, ça, c'est pas bête de préciser quand même.
Non, mais ça peut arriver, vous savez, de temps en temps. Ouais. Juste ce petit mot de Laurent Collas, ouais. Ouvrir dans le sens du courant, courant, une fenêtre, ouais. Et pas toutes, et briser la vitre si on le peut.
Met sur le toit du véhicule, ouais. Si on a la possibilité, pour qu'on puisse un peu connaître mieux, évaluer l'environnement dans lequel on se trouve.
Voilà, et puis surtout, Laurent, c'est dès qu'il y a des annonces, on évite de prendre les routes, et puis on prend même pas sa voiture si on peut au maximum, parce que je sais que cette semaine, ça a été d'une telle rapidité, d'une telle violence que tout le monde s'est fait prendre au piège et personne n'a pu réagir. Merci beaucoup, Laurent Collas. On rappelle votre
Merci
outil Rescue Me, et bonjour aux Américains.
Ouais, et puis s'il y a besoin, si toutes les informations en appelant 40 millions d'automobilistes, ouais. À partir de lundi, tout simplement.
Et on finit avec vous, Monsieur Libert, on va faire évidemment un point sur Assure People. On était parti effectivement de ce qui s'est passé en intempérie. Maintenant, une personne qui nous écoute aujourd'hui et qui se reconnaît dans ces personnes blacklistées qui ne peuvent pas avoir d'assurance, quelle est la démarche? Le côté pratico-pratique pour rejoindre Assure People?
Le côté pratico-pratique, c'est réunir le maximum d'informations sur vos assurances antérieures. Parce que même si aujourd'hui vous n'êtes plus assuré ou vous roulez sans assurance, et j'imagine que vous avez parlé du fichier des véhicules assurés,
ouais,
et des campagnes de sensibilisation qui vont démarrer, ça va devenir très compliqué de rouler sans assurance aujourd'hui, et c'est vraiment pas une bonne idée. C'est des situations qui peuvent être catastrophiques.
Mais on l'a rappelé à plusieurs reprises.
Pour les familles, c'est
vraiment... Malheureusement, qu'on trouve que ce soit trop cher ou pas, il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc réunissez l'ensemble de votre historique d'assurance. Chaque période d'assurance compte. Même si vous avez été assuré 6 mois il y a 3 ans, c'est susceptible de faire baisser votre prime. Soyez transparent avec votre courtier ou votre assureur quand vous exposez votre situation. Et aujourd'hui, il y a des situations pour les personnes qui roulent aujourd'hui sans assurance. À partir de 25 euros par mois, vous pouvez revenir dans l'assurance auto avec un produit au tiers, vous reconstituer des antécédents et progressivement être en mesure justement de souscrire ces garanties dommages qui feront que, en cas de situation catastrophique comme celle qu'on a connue, votre outil de déplacement essentiel sera indemnisé.
Ben voilà.
Donc sur AssurePeople.com, vous avez tout ça en ligne. on a des conseillers qui sont des spécialistes de cette situation et qui savent écouter et reconstruire les situations avec, avec les clients.
Donc on retiendra hein, le message, à mon avis principal, c'est si vous habitez dans une zone à risque, surtout n'hésitez pas à regarder votre contrat d'assurance pour voir s'il intègre cette petite clause de catastrophe naturelle, parce que quand ça n'arrive pas, bah, comme d'habitude, hein, on a l'impression de payer des assurances pour rien, et quand ça nous tombe dessus, eh bien, on se rend compte que ça serait peut-être dommage pour 2-3 euros par mois passer à côté d'une indemnisation potentielle. Ça ne concerne pas tout le monde en France, mais si vous êtes du côté de villes un petit peu emblématiques type Vaison-la-Romaine, où il s'est quand même passé des choses il y a quelques années, je pense que ça me paraît presque essentiel.
Bertrand Libert était notre invité, président d'Assure People, que vous retrouvez sur internet assurepeople.com. Merci beaucoup Bertrand.
Merci Laurence, merci Pierre.
À
bon
bientôt.
Week-end.
Allez, maintenant on va retourner au rugby dans quelques minutes.
Mais
tout
on va
de suite.
À la plage. Ouais.
Non, pas du tout monsieur, non. Mais peut-être que ceux qui sont en Ile-de-France et qui écoutent Sud Radio sur 99.9 vont peut-être pouvoir, s'ils vont dans un endroit particulier dont on va parler pendant 2 minutes, gagner une voiture ce matin. Écoutez. C'est Olivier Chaput qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef des enfants. Les enfants vous connaissent bien parce que vous êtes toujours chef d'ailleurs sur des chaînes comme Gulli ou pas mal de choses comme ça. Et depuis quelques années, vous avez monté un magnifique festival qui s'appelle le festival hashtag Bon, B-O-N. C'est alimentation et gastronomie pour les enfants. Alors voilà, d'un seul coup, Pierre me regarde. Mais on aime, mais pourquoi ça dans Ça Roule? Parce que vous faites gagner une Volvo jusqu'à demain soir sur votre festival qui se passe à Villejuif. Donc on va en parler dans quelques instants. Volvo
c'est
voiture, hein, une belle Volvo, une V40 noire, elle est magnifique.
Ah oui,
je l'ai vu hier, je suis allé présenter un truc hier soir avec eux, c'est magnifique.
Et comment on fait pour la gagner? Parce que bon, on me prévient là, on me dit il y a une voiture à gagner, mais comment on fait?
Mais je pense que la meilleure des solutions, c'est de venir nous rejoindre à Villejuif pour participer à la tombola. Sinon, là, sur le site du festival, on a la tombola en ligne. Mmh. Et ouais, effectivement, cette année, c'est la nouveauté de notre salon. On a des partenaires qui sont franchement généreux et qui nous aident à maintenir notre salon. Et cette année, Volvo Montrouge, donc à côté de Villejuif, nous a fourni pour la tombola une superbe V40. Et voilà, les billets, c'est 2 euros. Et voilà, ça permet de tenter sa chance en tous les cas sur le festival pour remporter cette voiture.
Alors oui, vas-y. Bon.
Ouais, je me disais tout simplement pour quelle cause, qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi cette tombola?
En fait, on est une association. Donc le festival hashtag Bon, c'est la vitrine de l'association. L'association s'appelle Les Enfants Cuisinent.
Ouais.
On œuvre depuis 2011 auprès de toutes les structures qui accueillent les enfants et notamment
partout
dans le milieu
France,
scolaire.
Hein, Olivier, partout en France. Ouais. Là, c'est Villejuif parce que c'est le week-end du festival de Villejuif. Mais vous allez dans quelle autre ville, par exemple, dans le sud, etc.
On a fait une édition à Palavas-les-Flots. C'est une ville et une région qui nous a accueillis. On a plusieurs villes qui sont intéressées à accueillir le festival et donc l'association qui elle œuvre tout au long de l'année dans toutes les villes de France pour le bon et bien manger des enfants, donc par des ateliers souvent menés à l'école. Hein. C'est l'association des chefs qui s'invite à l'école. Et à côté de ça, les festivals, voilà, on a de plus en plus de villes et de départements qui sont intéressés. Je pense à Limoges qui est intéressé pour début 2021. On a Albi qui est intéressé. On a des villes comme Nantes, Lille.
Et moi, j'y crois à l'alimentation et à la gastronomie par les enfants. Vous savez pourquoi, Lolo? J'ai acheté un livre génial. C'est un livre de recettes pour enfants de Disney, avec des personnages de Disney. Et tu fais les pâtes des aristochats,
ouais.
Et machin. Et il y a les recettes comme ça. Et les enfants prennent un malin plaisir. Et c'est vraiment super ludique d'apprendre à cuisiner ensemble. Je trouve que c'est comme la voiture, finalement. Quand on apprend, moi, mes loulous sont passionnés de voiture parce que je leur ai fait découvrir fatalement. C'était plus simple pour moi. Mais la gastronomie, c'est pareil. Ça fait partie des grandes valeurs de la vie quand on arrive à la transmettre,
et puis,
c'est que du partage.
Surtout qu'Olivier permet aussi à des enfants qui sont dans des milieux sociaux qui ne sont pas spécialement ouverts à ça, parce que quand on a des petits revenus, des fois tu manges plus des pommes de terre ou des pâtes, même si ça adore ça, même si c'est bon, que peut-être le dernier légume magnifique, etc. On est honnête pour ça, Olivier, et vous, Olivier Chaput, vous amenez aussi cette ouverture du goût, cette ouverture du plaisir culinaire pour des enfants qui n'auraient peut-être pas l'occasion de le faire. Olivier, pour conclure, on rappelle, ça se passe à Villejuif, à l'espace Congrès Les Esselières.
C'est ça, tout à fait.
Il y a plein de choses à voir.
Il y a plein de choses à voir.
Ouais, il y a un magnifique marché des producteurs. Il y a pas mal de choses, évidemment, sur le côté bio, écolo, etc. aussi pour inclure les enfants dans le bien manger. Et puis, on va vous retrouver là-bas pendant 48 heures. Puis il y a une Volvo à gagner.
les piller à la Volvo. Comme ça, ils pourront, la personne qui la remporte pourra se déplacer dans toutes les régions de France pour à la découverte des produits.
Et puis, on rappelle, hein, le climb du festival, c'est hashtag bon, ramène tes parents.
Voilà, c'est ça.
Et vous avez tout ça sur internet, salon-bon.fr. On peut jouer, et c'est pour ça qu'on voulait en parler, on peut gagner, on peut jouer, on peut faire la tombola sur internet. Donc, même si vous habitez à Albi, à Montpellier, à Strasbourg, à Bordeaux, à Lille, vous pouvez jouer. Olivier, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre invitation.
À bientôt. Allez, tout de suite, on file au Japon de nouveau, parce qu'il se passe quand même des choses là-bas, entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande.
Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Je voulais déjà m'excuser auprès de vous, vous qui avez essayé de nous joindre pour réagir à certains sujets, mais c'est vrai qu'avec ce match Angleterre-All Blacks, on n'a pas pu vous donner la parole parce qu'il y avait un événement planétaire de la planète rugby qui se passait et on a eu envie sur Sud Radio évidemment de leur laisser la priorité. Maintenant, eh bien, vous allez de nouveau pouvoir nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300 ou sur Facebook avec la page Facebook puisque nous sommes en live sur la page Sud Radio parce que mon Pierrot, on va parler de
oignons,
birthday, d'anniversaire voilà. Avec un mec qu'on adore ici.
Et c'est François Roudier, le boss comme on l'appelle maintenant, il y a bien qu'ici qu'on appelle comme ça le boss. Et François Roudier, c'est le directeur de la communication du comité des constructeurs français de l'automobile. On a souhaité sa présence, que je suis tombé sur cette info cette semaine, c'est les 110 ans de Bugatti. Et Bugatti pour beaucoup, eh bien quand je vous dis, c'est quel pays Bugatti ? Ben on se dit, Ettore Bugatti, potentiellement, ça serait quelque chose d'italien. Ça sonne pas très suédois, cette affaire. Et pourtant, Bugatti est français. On s'est dit que c'était le moment de regarder un petit peu ce qui se passait dans l'histoire de l'automobile française.
Alors, on va parler de Bugatti, on va parler évidemment des 100 ans de Citroën. Alors, même si c'est pas que français, il y a les 120 ans d'Opel. Mais quelle année d'anniversaire, François Roudier ! Bonjour.
Bonjour, on va dire hello, friend. Voilà, c'est, vous voyez, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des racines qui existent dans notre pays et dans notre pays, voilà, l'automobile, le rugby, comme on dit dans le sud, chez mes amis de Toulouse, c'est beau, quoi. Et donc, c'est très émouvant, parce que lorsque vous parlez d'histoire, bah, l'histoire de l'automobile, oui, l'automobile, de temps en temps, on a tendance à le voir comme un grand cimetière avec des marques disparues.
Alors, mais, c'est ça, on va commencer là, mais le début y a des du marques. Siècle. Début 1900, enfin, écoutez, donc, bah, combien de constructeurs en France?
Bah, je vous dirai un exemple, quand le CCFA est mis en place en 1909,
le CCFA,
il y a le comité des constructeurs français automobile qui à l'époque s'appelle la Chambre syndicale des constructeurs automobiles, là, avec l'accent. Et il y a 150 adhérents. Actuellement, on
donc
est 3.
150 marques. Hein,
150 marques, voilà. Là, on est 3. Vous avez PSA, Renault et les camions Renault Trucks de Lyon. Donc, on voit qu'il y a eu une concentration. Il faut voir que l'automobile, elle a changé. Hein. Il y a plusieurs étapes dans la vie d'automobile. Il ne faut pas oublier que l'auto, lorsqu'elle est créée, au départ, c'est un petit peu un truc sportif. D'ailleurs, quand vous voyez les créateurs, ils font du vélo, ils font du bateau. C'est des dingues. Hein. Lorsque vous voyez les gens respectueux maintenant à l'Automobile Club de France, quand vous voyez les dingues que c'était au début, à la fin du 19e siècle, c'était assez étonnant. Et tout ça va changer complètement après la Deuxième Guerre mondiale où l'automobile va devenir l'automobile populaire. Avant, on est dans un système où tout le monde peut faire une voiture. Ce qui est le plus important, c'est plutôt le carrossier puis le moteur. C'est pas vraiment l'intégrateur.
Et donc, moi j'entends, mais Bugatti, la Veyron, la Chiron, c'est des voitures qui existent.
Ah, la Veyron,
on me dit
que
c'est français.
On me dit... Rodez, si tu m'entends, la Veyron.
J'ai dit Chiron, j'ai pas dit les... Chignon. Hein.
Alors, voilà, attention, parce que les noms des Bugatti sont des noms de pilotes.
Exactement.
Je tiens toujours à le rappeler.
Donc, cette marque, ben on nous dit qu'elle est française, mais j'ai regardé, j'ai gratté le billet de tac au tac, je m'aperçois qu'elle a été rachetée par roulement de tambour.
Ta-da-da. Alors, mais là, dernièrement.
Alors, la nationalité de Bugatti, parce que je connais très bien le problème, vous savez, moi j'ai de la famille alsacienne. D'abord, l'usine, on dit pas Molsheim, on dit Molsheim. Hein, c'est comme ça qu'on parle en Alsace là-bas. Voilà, et ce, en Alsace. Et Bugatti, Ettore Bugatti, il faut bien voir que c'est un Milanais d'origine milanaise, toute sa famille est de là-bas. Donc au départ, vous avez un Italien qui va en Allemagne, parce que Molsheim jusqu'en 1918, c'est le Reich allemand. Hein. Mmh. Il va s'associer avec pas mal de constructeurs qu'on connaît, comme Matisse, qui est aussi un constructeur allemand parce qu'ils sont en Allemagne, du côté de Strasbourg. Mais Ettore Bugatti va jamais prendre la nationalité allemande. Et en fait, il deviendra français en 1947. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on peut très bien dire que l'usine de Molsheim, oui, elle a été allemande. Ettore Bugatti, ben non, lui, il a jamais été allemand. Ça va même très loin parce que pendant la Première Guerre mondiale, il va quitter l'Alsace-Lorraine, il repart en Italie et finalement, il va travailler sur des moteurs d'avion d'ailleurs pour l'armée française et l'armée américaine.
Comme beaucoup de fabricants automobiles.
Mais finalement, il aura un peu choisi son camp. Il aura choisi le camp français.
Ouais, c'est ça. Alors donc, il reste français. L'Alsace-Lorraine revient sous le giron français. Donc bah, du coup, Molsheim revient en France. Et Bugatti avec.
Alors, il faut savoir quand même que on n'est pas dans la politique lorsqu'on est dans l'industrie. Et quand vous regardez tous ces pionniers, ils travaillent tous ensemble. Hein. Les Peugeot ont des moteurs Daimler. Tout ça est très européen. Hein. L'Europe d'avant Strasbourg, elle a déjà été faite à cette époque.
On ne se fait pas la guerre dans l'automobile.
Et vous avez pas mal d'échanges. En fait, tous ces pionniers se connaissent. Tout le monde travaille ensemble et vous avez une évolution après dans les années 20 où là la génération d'une certaine génération de ces pionniers des années de la fin du 19e siècle va disparaître avec toutes les nouvelles voitures qu'on verra dans les années 30.
Allez, on revient évidemment avec vous, hein, François Rodier, sur entre autres histoires de Bugatti, mais les autres, hein, puisque c'est spécial anniversaire. C'est vrai que cette année 2019 est vraiment truffée de jolis anniversaires de constructeurs, mais tout de suite on va accueillir Jacques. Bonjour Jacques.
Bonjour, j'aimerais que vous redisiez le nom de la société qui a racheté Bugatti.
Volkswagen.
Volkswagen, bon, oui, effectivement, bon. C'est intéressant, c'est le premier corrompu des constructeurs qui a truqué.
C'est plus compliqué que ça, Jacques.
C'est plus compliqué, je sais que c'est plus compliqué. Ouais. J'ai eu beaucoup de Volkswagen, ce sont des très bonnes voitures. Effectivement, la Bugatti Chiron est très intéressante. C'est comme je crois apparemment, sauf que j'ai vu qu'il y a un record de vitesse qui a été battu par une autre voiture. Voilà. Alors, les vieilles voitures, je trouve que c'est très intéressant et j'invite les auditeurs, je fais pas de la publicité, pour les fabricants qui fabriquaient des avions voisins.
Oui. Très très belle voiture, Jacques, vous avez et raison, sublime.
La C25 est une voiture tout à fait d'actualité aujourd'hui. Ça mettait des 12 cylindres, enfin, intérieur Hermès, n'est-ce pas, ils avaient bon goût. Peut-être que Monsieur Arnaud devrait essayer de ressusciter les voisins quand on voit le succès de la Bugatti.
Ça va être dur de la vendre à moins de 10 000 euros.
Hein. Oui, je suis d'accord. Alors justement, parlais avec un ami, Pierre, d'une voiture que j'ai eue, qui est la voiture du film Lauréat. L'Alfa Romeo Duetto, qui est cette voiture superbe, et que j'ai revendue en 70, 6 000 francs. Pour donner une idée, cette voiture aujourd'hui vaut 35 000 euros.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, Jacques. Niveau investissement, on peut pas être bon partout. Et là, vous n'avez pas été bon.
Alors, je vais vous dire, cette voiture a été sauvée du désastre parce que j'ai une propriété en Sologne. Je roulais la nuit sur de la neige. Et à Arpajon, il y a un gendarme qui a surgi de nulle part.
Alors, Arpajon, c'est dans le 91, hein, c'est plus en Sologne. Hein, on est dans le département Essonne.
Entre Étampes. Et entre Paris et Pithiviers, et j'ai été obligé de braquer, et ma voiture s'est encastrée sous un camion.
Oh mince !
En marche arrière.
Et vous n'êtes pas fait mal, vous ?
Et alors moi, j'ai eu le temps de me coucher, le chargement du camion, c'était des barres de fer qui ont transpercé complètement la voiture.
Oh vache !
Et comme j'étais amoureux de cette voiture et que les gendarmes ont accepté l'erreur, parce qu'on a fait un PV, l'assurance m'a payé la totale réfection de la voiture. Et c'est là que je l'ai vendu en me disant, on va pas tenter le diable. Ouais. Mais c'était une voiture extraordinaire qu'on voit dans ce film Le Lauréat. Donc c'est vrai qu'on a fait des très belles voitures.
C'est ça.
Et je me dis que je vais essayer un jour ou l'autre d'acheter une voisin. Hein, puisque c'est quand même une très jolie voiture.
La voiture du film, hein, c'est la Alfa Romeo Spider de 66, exactement.
Oui, elle ressemble. Elle a 1600 et elle était la sienne, elle était rouge.
Oui, c'est ça. Ouais. Et la vôtre, pour conclure.
C'est un petit coupé de cabriolet. Ouais.
Et ben merci Jacques pour ce joli témoignage sur l'amour de la voiture aussi de collection.
On
vous embrasse.
Jacques.
Bonne route.
Ouais, ça roule avec vous sur Sud Radio.
Raoul.
Mais il est cool. Notre Jacques. On revient dans quelques instants avec notre invité François Roudier et on parle d'histoire et des anniversaires des constructeurs français. Vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez aussi au 0826 300 300, ou vous qui êtes sur Facebook, on n'a pas pu parler beaucoup de vous parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements dans cette émission avec le rugby entre autres, mais on vous embrasse, Zab, Stéphane, Sandrine, voilà, tous ceux qui viennent régulièrement nous faire un petit coucou. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret,
Laurence Perrault.
Et on parle des histoires magnifiques, anniversaire des constructeurs. Oui, 2019, c'est une année, Pierre, on parle beaucoup de tous ces anniversaires. On avait commencé avec les 110 ans de Bugatti, on peut rappeler les 100 ans de Citroën, on peut rappeler les 120 ans d'Opel et pas seulement. Et on a notre invité, M. François Roudier, qu'on aime beaucoup, et qui voulait mettre à l'honneur ce qu'on appelle les clubs.
Oui, parce que finalement, la passion automobile perdure, on a beau nous dire ce qu'on veut, quand on croise une jolie ancienne voiture, eh bien, la machine à selfie part, on prend tous nos téléphones et on les prend en photo avec les mômes, avec les gamins. Moi, les miens, tu sais, François, moi, c'est la Coccinelle numéro 53, choupette. Bon, ben voilà, ces anciennes voitures, ces clubs, ils existent encore en France. Comment ça vit? Comment les constructeurs font pour entretenir un espèce de petit maillage, une amitié réelle, une proximité entre les clubs de passionnés de voitures anciennes et ce qui se passe aujourd'hui?
Bah, écoutez, c'est très surprenant parce que, autant en Allemagne, vous avez quand même un gros soutien des constructeurs, en France, c'est pas évident, et ça commence, je dirais, maintenant à bouger, parce qu'en fait, on voit que ce sont plutôt des constructeurs, des privés, des gens qui ont, par amour de la voiture, de la marque même, ont développé eux-mêmes cette conservation du patrimoine. Alors, c'est en train d'évoluer, parce que les gens du marketing ont compris que, finalement, l'identité de la marque, ça représentait quelque chose. Hein. Mmh. Chez Citroën, vous en faites pas, quand ils ont lancé le centenaire, ils ont commencé à comprendre que dans le monde entier, tout le monde allait le commémorer, sans attendre les directives de la maison mère. Parce que
quand on crée une marque qui s'appelle DS, ça veut tout dire déjà.
Voilà, exactement. Hein, et moi, je connais bien, par exemple, les gens du club Opel Classique de France, qui sont dans le centre de la France, à Montluçon. Et ces gens-là, ce sont des fanas de la marque Opel, mais fanas jusqu'à aller récupérer les tenues des ateliers Opel, les pins Opel, les manuels
alors,
Opel.
On s'émerveille pour quelle voiture chez Opel?
Parce que moi, toutes les voitures. Alors j'ai inauguré la foire exposition de Montluçon en dévoilant avec le maire une Opel Olympia de 1951, absolument sublime. Mais vous aviez, lors de la présentation où tous les gens étaient là, il y avait des jeunes qui étaient là avec leur Opel Ascona des années 80 et ils étaient fascinés par le truc. Et c'était super parce que vous avez
Comment on explique qu'à l'ère de la voiture connectée, avec les sièges chauffants, les vitres électriques, on rentre dedans bientôt la reconnaissance digitale, etc.
Parce qu'elles n'ont plus d'identité.
Mais l'un, attention,
elles
l'un...
ressemblent non, toutes alors, les unes aux autres quand
oui,
même.
Moi, je ne serais pas tout à fait de cet avis. Et quand on commence à voir ça, on voit que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes constructeur automobile, ne pas avoir de passé. Ou alors si vous êtes chinois, vous vous lancez, vous connaissez le fait que les voitures chinoises n'ont aucun succès dans le monde. Il y a peut-être le fait qu'il y a aucun attachement à une marque. Une marque, c'est toute une histoire. C'est aussi une histoire que vous avez vécue avec cette marque. Hein, pour moi, les voitures anciennes et les clubs de voitures anciennes, c'est le début de Rock Collection de Laurent Voulzy. On a tous dans le cœur une petite fille, queue de cheval, jupe plissée. C'est ça, le truc. Et vous avez un retour de ce qu'on a appelé le vintage, c'est-à-dire une vision un peu idéalisée du passé, mais qui était finalement assez sympa. Et la voiture, ça vous permet de se raccrocher à ça, parce qu'on a tous eu une voiture. Et c'est pas parce que vous allez aimer une très vieille voiture que vous n'allez pas acheter une nouvelle voiture, hyper connectée, hyper... Non, vous recréez un passé.
Il est vrai que, psychologiquement, on se souvient tous de la première voiture qu'on a eue.
Mais bien sûr, voilà.
Moi, je veux l'oublier.
Moi, c'était la Dodoche, mais voilà, tout le monde a dans la tête quelque chose...
Tout le monde a dans la tête, mais dans la musique, à l'arrière des berlings de Bachung, vous voyez, on est dans ce système-là. Et je crois que c'est un message pour nos politiques, en particulier les gens des municipalités. Attention quand vous tapez sur la voiture, parce que vous tapez pas sur un objet, vous tapez sur quelque chose qui constitue la population française. Et là, il faut être très prudent, il faut savoir garder.
Sur
un patrimoine émotionnel, on se souvient de ses grands-parents avec leur voiture. Est-ce qu'on en a eu? Est-ce qu'on en a pas eu? On a derrière tout un schéma. Vous avez un schéma aussi d'odeur. C'est très intéressant de voir que dans les clubs anciens, il y a tout un aspect. Alors hélas, qu'on peut pas reproduire à la radio, qui est l'aspect olfactif de la voiture. À l'intérieur, ça sent le cuir. À l'extérieur, ça sent l'huile et ça sent le métal. Vous avez du laiton, donc vos doigts sentent un peu le laiton, le cuivre un peu oxydé. Tout ça, ça représente cette sympathie que vous avez de gens qui se regroupent. Alors, on dit que les Français sont individualistes derrière leur écran. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu plein de jeunes dans ces clubs-là qui se regroupent sur toutes les marques. Hein. Vous avez des anciens Toyota, vous avez des gens qui reprennent des Nissan. Il y a un club de Nissan Prairie.
François, parce qu'on a une espèce de clivage entre, d'un côté, le discours politique qui dit les Français veulent plus de voitures, et puis la réalité des chiffres. Vous avez vu cette étude, là, qui est tombée, 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour.
Écoutez, nous, ça fait 30 ans qu'on le dit, qu'on le prouve, et on n'est pas toujours souvent entendu.
Et puis quand on est dans les territoires, bah vous êtes en campagne, on est relié par quoi ? Par une route. Et les routes, elles ont été créées pour qui ? Bah pour les voitures.
Exactement.
Et même sur certaines chaînes de télévision, dont je tairai le nom parce que c'est un peu nos concurrents aussi en termes de radio, mais c'est pas grave, il faut que le soleil brille pour tout le monde. Il y a de plus en plus d'émissions autour de la voiture. Top Gear, Vintage Mécanique. Comment il s'appelle ce jeune homme qui répare des vieilles voitures ?
Wheeler-dealer.
Ah, c'est génial, ouais, ça. Moi, je suis tombée dessus cet été, mais j'ai... Enfin, excusez-moi, je suis... Bon, ok, je suis une nana qui aime la bagnole, mais j'ai adoré cette émission où il désosse complètement des vieilles voitures, il répare entièrement, il monte la mécanique. Enfin, c'est incroyable.
Si vous voulez monter votre audience sur une chaîne télé, vous faites une émission avec des petits chats ou une émission d'automobile. Vous êtes sûr que ça cartonne?
C'est pour ça que Sud Radio, ça roule. Hein.
C'est pour ça que ça cartonne aussi. Et sur Sud Radio.
Le samedi, il y a Natacha, voilà. Avec les petits chats et les après, animaux.
Et bien, vous voyez, j'y avais même pas pensé. Et finalement, j'étais dans la vérité.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres grands rendez-vous? Là, on n'est pas encore à la fin d'année, il nous reste 2 mois, mais on sait que ça va aller très vite. 2020, il y a d'autres anniversaires?
Sur 2020, il n'y a pas encore de gros anniversaires. Mais vous avez
l'anniversaire de François, déjà.
voilà.
Le tien aussi, accessoirement.
Qui est le 4 juillet.
Allez, bam. Mais vous avez... Le jour de l'Amérique.
Tout à fait. Et vous avez quand même un excellent salon superbe en 2020 à Paris, qui est Rétromobile, Rétromobile qui est toujours un salon remarquable parce que vous voyez à la fois des voitures anciennes, populaires, des 4 chevaux, et vous voyez des voitures d'exception mises en vente par des grandes maisons qui vendent ces voitures. Donc si vous voulez voir des Bugatti type 57, vous en verrez sûrement à Paris. Et c'est vraiment un moment important.
Est-ce qu'on en verra au mondial de l'auto, qui n'est pas vraiment un mondial et pas vraiment de l'auto? Qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine? C'est quand même un gros point d'interrogation pour tous ceux qui nous écoutent aussi. Hein. Qu'est-ce que ça va devenir, ce grand salon de Paris sur l'aspect voiture? J'espère. Je croise les doigts pour qu'on le conserve.
Il y a aussi à Lyon un très grand Époque Auto. C'est
tout
le 8,
fait,
9 et 10 novembre. Souvenez-vous bien cette date, surtout le 9 parce que c'est mon anniversaire. Mais donc, c'est le 8, 9 et 10 novembre Époque Auto à Lyon.
Il faut y aller. Il y a de très belles choses. Vous savez, Lyon, on connaît très bien toute la région Île-de-France pour les débuts de l'automobile. Mais tout ce qui était à Lyon était hyper important.
Vous avez énormément de marques. Là-bas.
Il n'y a pas que le cinéma. Et d'ailleurs, le cinéma a pris des voitures.
Il n'y a pas que le saucisson en brioche.
On voit des voitures dans les premiers films de lumière, parce qu'effectivement, c'est ses copains qui, à côté, ont des voitures. Donc oui, aller voir Époque Auto, c'est remarquable. Mais vous avez pas mal de petits salons comme ça, qui se font dans notre grande France, et où on voit de très belles choses. Allez voir, parce que c'est aussi intéressant de voir les voitures anciennes, parce que vous voyez comment ça a évolué. Mmh. Et on voit quelque chose qui a toujours 4 roues et une caisse et un moteur. Finalement, c'est quand même très différent maintenant.
Alors, on avait aussi les 120 ans de Fiat, hein, cette année, on n'en a pas
Fiat
du tout
aussi.
Parlé, mais c'était aussi en 2019.
Oui, Fiat là, un petit peu moins célébré, parce que Fiat, vous savez, il y a quand même quelques petits soucis de structure, de corporate, mais c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a de très belles choses sur Fiat. 70
ans d'Abarth,
Lancia aussi, qui, elle, était reprise depuis 40 ans
les
par Fiat.
Les 110 ans d'Audi.
Les 110 ans d'Audi. Alors Audi n'a pas tellement fait, parce que c'est Auto-Union, c'est fait dans les années 30, dans des circonstances un peu délicates par rapport aux années 30. Et nos amis allemands ont un petit peu tendance à faire commencer l'histoire de leur automobile après 1945.
Chenard et Walker, 120 ans.
Chenard et Walker, oui.
Alors,
sublime voiture.
Un petit mot vite fait sur cette voiture.
Mon arrière-grand-père en vendait, alors je peux vous dire que c'était une superbe voiture. Mais ça fait partie de ces voitures d'avant la voiture populaire, c'est-à-dire que vous achetiez la carrosserie, le moteur, et vous alliez voir un super carrossier qui allait vous habiller la voiture. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le prêt-à-porter, on était dans la construction de sa voiture.
Alors moi, ce que je propose, c'est que pour les fêtes de Noël, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes amoureux des vieilles voitures, allez-y, envoyez-nous des mails, appelez-nous, y compris sur le Facebook, hein, n'hésitez pas. On va organiser une voiture avec des passionnés. Ça pourrait être très chouette pour les fêtes de fin d'année.
Une émission.
J'ai dit quoi ?
On va organiser une voiture.
Ah oui, une émission. Merci beaucoup François.
Merci.
Très très vite, parce que là il nous reste quand même à savoir ce qu'on va mettre dans le réservoir et faire le prix des carburants.
On met toujours du carburant, c'est pas ça.
François Roudier, qui est donc le directeur de communication du Comité des constructeurs français de l'automobile, autrement dit le CCFA.
Sud Radio.
Ça roule.
La minute qui carbure.
Bon, c'est le même refrain depuis malheureusement maintenant.
Et avec le sourire, Gaspard, ça peut
être
bien.
Le samplon 98 augmente de plus 1,7 centimes. Le samplon 95 plus 2,2 centimes. Et le gazole un peu moins, tiens, pour une fois, plus 1,4 centimes. Même le GPL et le bioéthanol sont en augmentation cette semaine.
Mais c'est pas très bon, ça. Ça sent pas très bon. Je vous le dis franchement, ça sent pas très bon. Je me rappelle, on s'approche dangereusement des 1 an des événements du 17 novembre l'an dernier, qui est apparu sur fond de prix des carburants. Les prix du carburant remontent, les taxes ne baissent pas, ça m'inquiète.
Merci à tous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Les programmes continuent. Vous avez rendez-vous bien sûr avec Invino dans quelques instants. Et n'oubliez pas, puisque c'est la Coupe du Monde, toute l'équipe de rugby Sud Radio est là cet après-midi aussi à partir de 15h pour vous accompagner. Bon week-end!